Donc, merci beaucoup pour la présentation et aussi par l'invitation à participer à ce colloque qui m'a permis de revisiter mes sources et de les lire sous une autre perspective. Bon, avant d'entrer directement dans les régimes, la question des régimes de circulation de l'écriture en Angola, quelques remarques liminaires de contexte s'imposent. Tout d'abord, de quel Angola parle-t-on ? Il s'agit d'une colonie vouée premièrement à la traite négrière, dirigée aux Amériques, les espaces de colonisation effectifs étant très réduits. En fait, ce qui est en jeu n'est pas la domination sur un territoire, mais plutôt sur un réseau de marchés connectés par des chemins terrestres. Pendant toute la période moderne, on identifie que deux villes, Luanda, la capitale, et Benguela, une autre ville-port située au sud de cette dernière. De fait, vers l'intérieur de Luanda se déploie un réseau de chemins africains empruntés par des commerçants qui reliaient une poignée d'implantations coloniales nommées les présides aux marchés de l'intérieur et aux chefferies et royaumes africains. À la tête de ces présides se trouvaient les capitaines investis de pouvoir en tant que chefs militaires et juges de première instance, mais qui étaient directement engagés dans le commerce négrier de longue distance. Autour de chaque préside s'organisaient des chefferies qui entretenaient des rapports de vassalité avec les autorités coloniales. Les missions religieuses des jésuites et surtout des capucins se sont aussi implantés pas loin des présides, bien que de manière intermittente, et fréquemment en relation avec le programme missionnaire adressé au royaume du Congo. Mais, soulignons-le, des régions étendues de l'actuel espace angolais restaient sous la souveraineté des rois et des chefs africains. Bref, et pour reprendre une formulation que Luís Filipe Tomás a forgée pour l'Asie portugaise, on dirait que l'État colonial en Angola n'est pas un territoire, il est un réseau. Deuxième remarque, quand il s'agit d'étudier la question de la circulation de l'écriture, il est crucial de souligner que les sociétés africaines de la colonie de l'Angola connaissaient des systèmes de communication non alphabétiques, mais elles ne connaissaient pas l'écriture graphique. Elles ont donc pris contact pour la première fois avec l'écriture alphabétique par le biais de la colonisation portugaise. Enfin, troisième remarque, je vais m'intéresser ici surtout aux chefferies Ndembo du groupe Mbundu. Parce qu'elle représente un cas exceptionnel. Il se trouve qu'un certain nombre d'entre elles a constitué des archives d'État, et là je suis en train d'utiliser la terminologie des sources, qui ont été conservées dans les villages où siégeait le pouvoir politique depuis le XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle, et très probablement, ces archives ont été gardées jusqu'aujourd'hui encore dans certaines chefferies. Or, les chefferies Ndembo n'ont pas été les seules à adopter la culture écrite. On sait que des phénomènes similaires ont eu lieu dans d'autres régions de l'Angola. Cependant, si de telles archives ont pris forme, elles n'ont pas été conservées. Par conséquent, les archives d'État des chefferies Ndembo sont aujourd'hui les seules accessibles aux historiens. Ces matériaux, une fois mis en relation avec les sources coloniales, permettent de faire l'histoire de la rencontre d'une culture de l'oralité avec le monde lettré. Or, l'historiographie a longtemps ignoré ce phénomène, alors que la rencontre avec la culture politique coloniale, liée aux pratiques de l'écrit, finit par avoir un impact énorme dans ces sociétés. Bon. Reprenons donc le fil de la thématique du colloque. Les chefferies Ndiambo ont maintenu un contact pluriséculaire et documenté avec des États qui disposaient de structures politiques et bureaucratiques fondées sur l'écrit. D'abord et surtout, les autorités coloniales portugaises qui siégeaient à Luanda depuis le XVIe siècle. Et sur le même modèle, l'ancien royaume du Congo qui avait comme capitale Mbanza-Kongo. Les Ndembo occupaient ainsi un vaste espace de circulation à mi-chemin entre ces deux centres politiques. Et ces chefferies ont intégré des structures sociopolitiques liées aux pratiques d'une culture bureaucratique et ont développé un usage original de l'écriture. La figure du secrétaire d'État, sur laquelle je reviendrai, émerge dans chaque chefferie comme une figure centrale de l'appareil politique, conjointement avec les positions politiques définies par le système de la parenté, par rapport auquel il est souvent en concurrence. Dans la longue durée, ce processus s'est révélé d'une grande complexité et a suscité une double mutation. La société Ndembo s'appropria l'écriture, lui trouva des usages singuliers qui simultanément ont produit des changements à l'intérieur de cette société. Ce nouveau savoir a interagi avec le corpus de savoir préexistant, les transformant et se laissant transformer par eux. Alors, s'il est vrai que l'écriture alphabétique du colonisateur comportait des structures de pensée et des modèles d'organisation du monde, il est tout aussi certain que des éléments propres au mode de la pensée Mbundu furent à cette occasion répertoriés, transcrites et conservées dans leur logique propre. En effet, les pratiques de l'écriture ne dépendaient pas uniquement des relations qui s'établissaient avec le pouvoir colonial. Progressivement, elles se sont intégrées au savoir-faire des élites Ndembo, non comme imposées de l'extérieur, mais comme s'imposant de l'intérieur et interagissant avec les structures établies. En principe, à la base, les documents sont écrits en langue portugaise, bien que celle-ci soit truffée de mots et d'expressions en langue Kimbundu, qui est la langue locale, et aussi en Kikongo, la langue parlée dans le royaume du Congo. Visuellement, on ne reconnaît pas facilement le mot sur la feuille de papier. L'orthographe est maintes fois modifiée. Les coupures de mots ne sont pas toujours respectées. L'écriture code la continuité orale du message en oubliant les règles intrinsèques de l'orthographe. Ces textes devaient être lus à haute voix, ce qui est encore le cas pour l'historien aujourd'hui. Et on a ainsi affaire à des textes dont la lecture et l'interprétation sont d'une énorme complexité. L'étude croisée de ces archives, que j'ai décrite rapidement pour vous donner une première idée de leur contenu, recouvre une profondeur historique de trois siècles, du XVIIe au XXe siècle, au début du XXe siècle, et révèle trois régimes majeurs de circulation de l'écriture qui se mettent successivement en place. Le premier est le régime auquel j'appellerais le régime impérial, à la fois bureaucratique et judiciaire, qui se structure à l'échelle de l'Empire portugais. Le deuxième est le régime de l'encapsulation, du repliement ou de l'indigénisation, c'est-à-dire quand l'écrit circulent à l'intérieur et entre les sociétés africaines ou les chefferies Ndembo. Et le dernier est le régime diasporique qui correspond à un processus d'expansion. Cette fois-ci, l'écriture emprunte les réseaux du commerce de longue distance pour aller se disperser en Afrique centrale. Chacun de ces régimes présente son propre mode de fonctionnement, sa procédure et aussi sa technique. Et malgré leurs spécificités, ils ne sont pas étanches les uns par rapport aux autres. Au contraire, ils coexistent dans le temps, se co-construisent et se superposent partiellement. Par ailleurs, cette triade s'entrecroise parfois, s'amalgame même, avec ce que j'appellerais les sous-régimes ou les régimes parallèles de circulation de savoirs scripturaux ou de savoirs issus d'une culture lettrée, c'est-à-dire je n'arrive pas à repérer les régimes en eux-mêmes. Je pense en particulier aux savoirs commerciaux et de ce fait aux notions de comptabilité, aux savoirs religieux chrétiens diffusés par les missionnaires et conservés grâce au catéchisme, à des prières et aussi à une culture matérielle et visuelle, et finalement à un régime de circulation de l'écrit à l'intérieur de la société de la ville de Luanda, associé à la production de savoirs historiques, c'est-à-dire apportant l'histoire de la colonie. Je ne peux pas parler de tous ces régimes et sous-régimes en 45 minutes. Je vais me concentrer sur les deux premiers, sur le régime impérial et sur le régime d'encapsulation. Bon, le régime impérial, bureaucratique et judiciaire, correspond à l'instauration d'un rapport de subordination des chefferies africaines aux autorités portugaises, représentées par les capitaines des présides, le gouverneur général dans la ville de Luanda et finalement le roi et les institutions métropolitaines à Lisbonne. Les sociétés africaines et leurs institutions se retrouvent alors inscrites dans des réseaux politiques, administratifs et scripturaux qui s'organisent et se déploient à l'échelle impériale. C'est pourquoi ce régime implique toujours une relation entre acteurs coloniaux et acteurs africains. Vu que ces derniers ne savaient pas lire ou écrire, ils ont dû faire appel à des scribes et des secrétaires d'État. D'abord, ces secrétaires sont surtout des fonctionnaires de l'administration coloniale. C'est dire que, dans un premier temps, l'auteur d'une lettre n'est pas encore son scribe, ce qui explique que la circulation de l'écrit n'engage que les élites du pouvoir. On a affaire à une alphabétisation restreinte et donc à une circulation élitiste des savoirs scripturaux. Le régime impérial a d'abord été formaté par les traités de vassalité depuis le XVIe siècle, ensuite par les réformes coloniales de l'administration, de la justice et de la justice de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc il y a deux moments de formatage de ce régime impérial. En effet, l'affirmation de la souveraineté coloniale portugaise face aux chefferies africaines établies à partir du gouvernement central de Luanda s'est servie des traités de vassalité, un instrument juridique auparavant expérimenté par l'Empire portugais, un nazi. Les chefs africains, qui devenaient les vassaux du roi du Portugal, se soumettaient à un acte solennel et public, ensuite matérialisé, étape indispensable, dans un document écrit. La conclusion d'un traité de vassalité revêtait ainsi une double forme, un acte oral et un acte écrit. L'accord était célébré en présence de deux personnes souveraines ou de leurs délégués, le roi du Portugal, représenté par son gouverneur en Angola, ou par une autre autorité portugaise compétente, en l'occurrence les capitaines des présides, et le roi ou le chef africain. Cependant, si au moment des négociations et de l'établissement des conditions du traité, l'autorité africaine pouvait être représentée par une ambassade, le traité en lui-même ne gagnait force de loi que par la signature ou la croix imposé par le chef et par l'exécution des actes symboliques inhérents. Lors de cette cérémonie, le document écrit préalablement préparé, l'acte de vassalité en soi, est lu à haute voix, les gestes symboliques de légitimation liés à la célébration du contrat, le commandement et l'investiture étaient associés à des cérémonies d'origine africaine. Ainsi, dans l'acte de l'encomenda, ou du commandement, le rituel européen était remplacé par un cérémonial provenant de coutumes locales. À la génuflexion du roi vassal, au moment où était prononcé le serment, se substitue une expression locale de soumission et de remerciement. Les sobas ou chefs applaudissent en posant les mains à terre puis sur la poitrine, tandis qu'ils jurent d'être les vassaux loyaux du roi du Portugal. Au commandement succédait l'investiture du vassal qui légitimait son installation. En Angola, cet usage est désigné depuis le XVIIe siècle avec une dénomination issue de la culture politique locale, le undamento, ou serment, et se subdivise en deux cérémonies directement issues de la tradition africaine au cours desquelles le vassal était recouvert de pemba, donc un collant blanc. Le contrat de vassalité, document écrit, contenait quant à lui un catalogue de droits et d'obligations à remplir par les deux parties. En échange de paix et de la protection, les Ndembo juraient fidélité au roi du Portugal, ce qui supposait de respecter les lois du gouvernement et de l'assister en cas de guerre, payer les impôts, ouvrir et entretenir les chemins pour permettre la libre circulation et donc le commerce négrier, recevoir les employés publics, civils, ecclésiastiques, judiciaires de l'administration coloniale et donc vivre en paix avec son peuple. Les chefs devenus vassaux trouvaient dans le registre écrit la légitimation de leur pouvoir par les autorités coloniales et prenaient conscience de la nécessité de conserver cette documentation comme symbole et preuve de la relation établie. Cependant, la signature d'un traité de vassalité ne faisait qu'inaugurer un rapport politique. En tant que document et en tant qu'institution, il a surtout fonctionné comme un puissant déclencheur d'une chaîne de relations politiques et diplomatiques extrêmement complexes dans lesquelles l'écriture a joué un rôle central. Le fait est que, dans un premier temps, le document écrit est perçu comme le symbole du pouvoir colonial, avant de savoir ou connaître, savoir lire et écrire, les chefs Ndembo s'approprient d'un symbole de pouvoir, et c'est ensuite que l'écriture sera appropriée comme un outil intellectuel. On peut ainsi considérer que c'est le traité de vassalité qui instaure un premier régime de circulation de l'écriture qui se traduit par un échange de correspondance entre les chefferies et les autorités coloniales et qui s'accompagne de la construction d'un savoir bureaucratique connectant à la fois la culture politique savante de la vassalité et les pratiques vernaculaires du système des lignages. Bon, nous avons ici un exemple d'un de ces traités de vassalité. Deux moments clés de la vie politique de la colonie impliquaient le renouvellement des actes et des serments de fidélité. L'élection du nouveau chef, du nouveau Ndembo, exigeait sa confirmation et demandait la répétition de l'hommage et du serment devant le gouverneur ou de ses représentants et le paiement de la dîme. Ici, nous avons précisément une lettre de confirmation d'élection qui est octroyé par le gouverneur général de l'Angola. De même, dès qu'un nouveau gouverneur arrivait à Luanda, les chefs devaient lui envoyer une ambassade composée d'un important cortège afin de réitérer les marques de leur fidélité. Ces rituels étaient l'occasion d'échanger des cadeaux et de fortifier les alliances. Le non-respect du protocole engendrait immédiatement des tensions, des correspondances, des demandes d'explications et, en dernière instance, pouvait dissoudre les liens de vassalité et conduire à la guerre. La circulation entre Luanda, les présides et les chefferies suscitait alors d'interminables échanges de lettres où les règles de la bureaucratie, des manières de dire et les formules étaient inlassablement répétées. C'est dans le sillage des traités et de la diplomatie que commence alors à circuler un autre type de document qui ouvre de nouveaux champs à l'intervention de l'écrit. C'est le cas des lettres de courtoisie, ainsi que des reçus, des mandats ou des reconnaissances de dettes qui concernait le paiement de la dîme exigée des chefs vassaux ou encore des lettres qui définissaient les stratégies d'alliance contre les ennemis communs des Ndembu et des Portugais. Le statut de vassal du roi du Portugal supposait ainsi la communication d'informations par écrit, notamment un échange régulier de lettres et l'apprentissage des procédures scripturaires et bureaucratiques. Avec les traités s'imposent des instruments du monde lettré aussitôt intégrés dans le protocole, les sceaux, les tampons et les cires rouges des documents assez simples des documents assez simples consignent l'offre, la commande et la remise de papiers décachés où sont marquées les armes royales ou celles des chefs. Bon, ici, voici un exemple de ces documents qui circulent et qui, sous le point de vue formel, s'approchent du modèle portugais. Un grand nombre de lettres évoquent donc les sceaux des chefs, impliquant fréquemment des officiers portugais qui se chargeaient de les leur fournir. Les Ndembu ont appris donc à utiliser ces matériaux de l'écrit, mais aussi les formulaires épistolaires portugais. En effet, les documents Ndembu suivaient en général le canon occidental, c'est-à-dire européen, tant du point de vue thématique que du point de vue stylistique. Les expressions et formules de politesse étaient souvent stéréotypées. Les entêtes et les souscriptions relevaient de catégories mentales et culturelles européennes plutôt qu'africaines. On trouvait des expressions telles que « mon estimé ami » ou « illustrissime, excellentissime seigneur Ndembu » comme « vassal et fidèle de votre majesté et votre seigneurie, mon père et seigneur » ou encore à la fin « Dieu vous garde de nombreuses années ». Dans certains cas, de longs enchaînements de formules d'origine portugaise étaient reproduits comme s'ils avaient été appris par cœur, sans qu'on puisse y déceler l'intervention de manière de dire proprement africaine. La lettre ressemblait alors à une longue récitation, comme si l'acte même d'écrire se confondait avec la simple énonciation du texte. Ces formules apprises par cœur et souvent recopiés n'étaient pas stables, celui qui s'en servait pouvait les déformer, en oublier des parties, déformer certains mots, soit par défaut de mémoire, soit du fait de l'insuffisante maîtrise de leur contenu. Ainsi, le texte garde globalement sa signification, même si dans le détail des phrases, il devient incohérent ou incompréhensible. L'énonciation des noms des destinataires ou des expéditeurs exigeait la prise en considération des titres politiques africains. On voit ainsi apparaître de longs énoncés où sont juxtaposés les noms chrétiens des chefs et les expressions honorifiques portugaises associées à des titres politiques africains. C'est ce qui se passe ici dans cette lettre où l'on dit « aux illustrissimes seigneurs Ndembu, Makote, bon, ce sont des titres politiques locaux, de la Banze, Banze c'est la ville, le nom Kimbundu pour ville, de l'état du Ndembu Kibashi, dont c'est l'honorifique portugais, Silva Sebastião, nom chrétien, Manmas, titre africain, et Dom Miguel Antonio, encore le titre honorifique portugais, et le nom chrétien, Manbanji, le titre africain. Donc il y a des énoncés parfois plus compliqués que celui-ci qui apparaissent dans ce genre de lettres. Bref, l'entremêlement de registres si disparates engendre non une écriture syncrétique, mais un processus d'accumulation d'énoncés par juxtaposition, passant parfois par des réplications de formules. Les repères africains ne sont jamais complètement effacés, mais les marqueurs coloniaux ne s'inscrivent pas de manière hégémonique, ils coexistent. Mais le régime impérial n'exige pas seulement cette appropriation des formulaires épistolaires. L'exercice durable de la vassalité a aussi exigé que les pouvoirs locaux adoptent les concepts associés au système de la vassalité. D'ailleurs, le pouvoir colonial lui-même espérait qu'il en allât ainsi et utilisait à dessein la terminologie savante de la vassalité comme langage politique de communication. Dans cet apprentissage, les traités de vassalité ont joué un rôle important lorsqu'ils contenaient des formules qui se sont avérées extrêmement répétitives au cours du temps, et cette continuité textuelle et institutionnelle a mis en circulation un certain nombre de formulaires et de formules très stables. Ainsi, en vue de l'efficacité des rapports politiques, les échanges épistolaires engendrent et fixent progressivement un langage bureaucratique commun, une espèce de rhétorique coloniale reconnue comme valable par tous les intervenants. Dans la construction de cette rhétorique coloniale, la langue portugaise occupe une place centrale en tant que langue écrite, malgré les interférences de la langue kimbundu. Mais si la langue établit le lien, le langage, quant à lui, produit la différence. Et c'est donc à l'intérieur de la même langue, le portugais, que s'est progressivement engendré ce langage bureaucratique très spécialisé. La langue portugaise est d'une certaine manière devancée par ce langage protocolaire, voire très ritualisé, qui se construit à partir d'elle, mais qui se restreint à des formules qui sont extrêmement répétitives. On comprend ainsi qu'en 1811, un gouverneur de la colonie de l'Angola est reproché au chef Cabo Cucambilo de ne pas avoir respecté les formulaires officiels. La citation met en évidence l'importance attribuée à l'ancienneté de cet apprentissage. Si j'arrive à... Oui, non. C'est à 20, c'est pas après. Pardon. Le gouverneur dit alors, je vous fais remarquer le manque d'attention avec lequel vous avez écrit au capitaine. On peut facilement le constater en observant la manière dont vous avez inscrit son nom sur l'enveloppe. Vous n'avez pas respecté le traitement de civilité et de subordination avec lesquels les chefs, les sobes et dembush, correspondent avec leur capitaine en les traitant de votre merci et en leur faisant preuve du plus grand respect. Or, étant ce style, comme il le paraît, très ancien et louable, vous auriez dû l'adopter en tant que preuve de votre obéissance, de votre bonté et de votre énergie. Les chefs africains, quant à eux, se secouraient de la même procédure, ils utilisaient ce langage partagé, ou pas, comme on le voit, pour après l'interpréter en fonction de leur propre code. On pourrait synthétiser ce jeu entre langue et langage en citant une formulation d'Edouard Glissant dans Poétique de la Relation, « Je te parle dans ta langue et c'est dans la mienne que je te comprends ». Mais la rhétorique coloniale fut aussi bâtie sur des appropriations linguistiques et conceptuelles qui se produisaient dans les deux sens. Les pouvoirs africains ont intégré le vocabulaire féodo-vassalique ainsi que les marqueurs linguistiques de la doctrine juridique des sentiments politiques d'anciens régimes qui décrivaient le rapport entre le roi et les vassaux comme un rapport entre le père de famille et ses enfants. L'administration coloniale, de son côté, adoptait le vocabulaire politique indigène, notamment les titres politiques, les préséances qui les accompagnaient et la terminologie associée au système de la parenté et au lignage. On assiste ainsi à une sorte de transcodage qui résulte de l'articulation entre l'invocation d'une filiation symbolique recourant au vocabulaire africain de la parenté perpétuelle, père de la génération, fils au sens sociologique du terme, avec les hiérarchies et les classifications que cette parenté impliquait, et le vocabulaire européen d'ancien régime construit autour de l'amitié politique et de l'univers domestique comme modèle du monde politique. Ces deux systèmes distincts de métaphorisation de politique se révélaient perméables l'un à l'autre. La communication devenait ainsi possible parce qu'elle reposait sur une compréhension qui n'était très souvent que protocolaire et très ritualisée. En parallèle à cette communication directe entre Africains et administrateurs, deux autres espaces se sont ouverts à la circulation de cette rhétorique coloniale. D'une part, la culture politique coloniale a fini par circuler dans les chefferies. Dans les textes rédigés en interne, les modèles et les expériences de société monde se mêlent au fil du temps à ceux du monde colonial. Le vocabulaire de la vassalité fut employé non seulement pour définir le degré d'attachement au gouvernement de Luanda, mais également pour préciser des hiérarchies internes. La terminologie féodale est récurrente dans la documentation interne, fonctionnant même comme métaphore des relations politiques aux côtés des relations de parenté. L'usage répétitif de la culture de la vassalité a ainsi permis sa validation et sa réinterprétation hors des relations avec le pouvoir colonial et finit par lui conférer de nouvelles significations et effets. D'autre part, la culture politique Mubundu a passé, elle aussi, dans les réseaux impériaux et leurs institutions. Les emprunts linguistiques et les usages documentaires en donnent une bonne illustration. On doit par exemple relever la fréquence avec laquelle les fonctionnaires du Conseil d'Outre-mer, siégés à Lisbonne, utilisaient des termes en langue Kimbundu et beaucoup d'autres langues africaines et je pense aussi asiatiques, pour pouvoir désigner des titres politiques, leurs hiérarchies et préséances, ou d'autres institutions politiques sans équivalent en Europe. L'importance des réseaux administratifs dans la circulation des savoirs politiques devient encore plus parlante si on pense qu'un document produit par une autorité africaine à l'aide d'un secrétaire était susceptible d'intégrer le CV d'un fonctionnaire colonial soumis à l'évaluation du Conseil d'Outre-mer. C'est le cas du document signé par le Dembu Mwile qui attestait des qualités professionnelles d'un greffier. On y trouve le formulaire portugais. Bon, je vais essayer maintenant de... On y trouve le formulaire portugais propre à une attestation et aussi la titulature du chef où sont juxtaposés le nom chrétien, le titre honorifique portugais et le titre politique Mbondo. Bon, je vais lire la première partie. Dom Francisco François Álvares Anguille, qui est un bol, titre politique, de sa majesté que Dieu garde, je jure sur les saints évangiles avoir reçu le 22 février 1747 avec les macotes, les dignitaires principaux de mon état, Antonio Carneiro de Magalhães pour capitaine et écrivain de mes terres, comme me l'ordonnait l'illustrissime et excellentissime seigneur général et gouverneur de ce royaume d'Angola et de ses conquêtes, João Jacques de Magalhães. Jusqu'à ce jour, 15 de mai, je n'ai aucune matière de plante le concernant. Il exerce son gouvernement dans la paix et la quiétude de mon peuple et avec attention pour mes terres, etc., etc. Donc il s'agit effectivement d'une lettre de recommandation qui a intégré un CV présenté au Conseil d'Outre-mer. Bref, le régime de circulation déclenché par les traités de vassalité a fini par transformer les réseaux administratifs impériaux et leurs institutions dans un lieu privilégié de co-construction de savoir politique. Au XVIIIe siècle, une nouvelle trame vient se rajouter à celle qui a été définie par la vassalité. Évaluons ainsi maintenant l'impact des réformes administratives de la seconde moitié du XVIIIe siècle sur le régime de circulation impériale. Idéalement, la réforme de la justice coloniale se proposait l'objectif d'écarter toute forme de jugement oral. Il faut dire que les premières cibles d'un tel programme étaient les capitaines des présides. Malgré leur pouvoir judiciaire, ils ne connaissaient ni les principes juridiques ni les pratiques judiciaires du droit savant européen. Ce qui n'est pas surprenant, pour connaître le droit du Portugal, il fallait une longue préparation et formation. Il fallait connaître et savoir décrypter la complexe hiérarchie entre la législation royale, le droit romain, le droit canon et la complexe doctrine du jus commune. Or, dans la documentation coloniale, les observations portant sur la préparation insuffisante des actes judiciaires dans les présides, en raison de l'incapacité des capitaines à maîtriser le langage juridique ou tout simplement l'écrit, sont légion. Le fait est que ces capitaines réglaient les conflits entre colons en faisant recours aux droits coutumiers africains. Le corpus juridique colonial savant se trouvait donc amplement envahi, dominé par le droit coutumier et par le régime de circulation de l'oralité qu'il servait. Or, les réformes 18e-istes ont contraint ou voulaient contraindre les capitaines à organiser systématiquement des procès judiciaires avec leurs étapes précises et la production de documents écrits. Et cette injonction concerna aussi bien les procès qui n'impliquaient que des Africains. Cependant, les capitaines, insuffisamment lettrés, en venaient à réduire le droit en usage à quelques formules simples, voire simplificatrices, et partant à restreindre son champ d'application. Le souhait exprimé par eux auprès des gouverneurs de pouvoir utiliser des formulaires prêts à l'emploi en vint à faire du formulaire une pièce centrale de l'administration de la justice. Et donc, on peut dire que le droit se confond avec les formulaires, et le formulaire, c'est le droit. Désormais, en fait, certains conflits, une grande quantité de conflits, ont été enregistrés dans les formulaires fournis par le gouvernement, même si ces capitaines sont restés dans l'ignorance du droit savant. Or, dans la continuité des liens tissés par les traités de vassalité, on constate que les chefs vassaux et leurs dignitaires sollicitaient fréquemment l'interférence directe du gouverneur de Luanda ou des capitaines comme arbitres des conflits internes aux chefferies. Or, il se trouve que désormais, on constate que beaucoup de ces conflits intra-africains sont consignés dans les formulaires judiciaires coloniaux. On y trouve toutes sortes de tensions sociales, mais surtout des problèmes d'ordre politique. La succession à la tête des États, chefs avec les problèmes de chefs illégitimes et contre-chefs légitimes, les litiges concernant l'usage des insignes de chefs et la déposition ou substitution des sauvages, des chefs. Il faut savoir, il faut comprendre que le système politique local n'était pas héréditaire, le pouvoir ne se transmettait pas héréditairement, et c'était au Conseil des dignitaires d'élire ses chefs, mais aussi de les destituer. Or, il se trouve que les archives coloniales permettent de vérifier la grande prolifération de ces procès pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et avec ces procès, se prolifère aussi une intense circulation des formulaires judiciaires comme les requêtes, les pétitions et toutes sortes de documents composant un procès judiciaire. De telle sorte que, en 1893, le gouverneur Saldanha da Gama, après avoir reçu une nouvelle requête des dignitaires visant la déposition d'un chef, recommandait au capitaine de ne plus enregistrer de telles plaintes. Et ça vaut la peine, effectivement, de lire une partie de cette lettre où on dit « Ayant fait examiner avec l'attestation nécessaire la requête de Don Antonio Pasquale sob Angoulême et le contenu de la plainte que Manuel Sebastião a présentée contre lui, avec quelques mécotes de l'État, j'ai considéré que ce qui est allégué par ces derniers n'est pas suffisant pour que soit expulsé le dit Antonio Pasquale, parce que si l'on prête l'oreille à ces plaintes, il n'y aura pas un chef, un sob, qui se sente en sécurité dans son état, et il en découlera des discordes et des discussions permanentes entre ses mécotes et fils au détriment du service royal auquel ils sont liés. J'ajoute être également informé de que dans ce sobado, il n'a jamais été d'usage de remplacer les sobes au seul motif qu'ils ne conviennent pas à leur sujet, et si cette coutume qui est la leur est altérée, ce sera la source de désordres répétés au vu du quoi j'ordonne à votre merci que vous conserviez le soba dans cet état, etc., etc. Donc cette lettre qui est magnifique montre bien que le système judiciaire ouvre une nouvelle voie d'expression des conflits de pouvoir et de discipline de ces mêmes conflits. Mais le système judiciaire inaugure aussi ce qu'on pourrait appeler un mouvement de codification, dans le sens où les pouvoirs africains vont utiliser les formulaires judiciaires comme une espèce de titre ou d'attestation légitimant un droit coutumier déterminé. Ces attestations, codifications, fonctionnent donc comme une espèce d'enregistrement ou d'archive des droits coutumiers qui se fait de manière informelle, mais par le biais de l'utilisation des formulaires européens. Et c'est de telle façon que les archives d'État des chefferies contiennent beaucoup de copies de ces procès, même quand ces procès étaient arbitrés par les tribunaux coloniaux. Il est donc temps de passer à la description, à l'analyse du deuxième régime de circulation que j'avais énoncé au début, le régime d'encapsulation, de repliement ou d'indigénisation de l'écrit. Par encapsulation, on entend un processus au cours duquel une société se replie progressivement sur elle-même, tout en gardant cependant des contacts mesurés avec le monde colonial. Combien de temps ? Le régime d'encapsulation suppose alors l'appropriation de la culture écrite par les acteurs africains et la circulation à l'intérieur des chefferies, entre chefferies et aussi dans les réseaux intra-africains régionaux. Dans les villages, de nouveaux rapports épistolaires se mettent en place entre les chefs et leurs dignitaires, entre secrétaires ou encore entre les secrétaires et leurs disciples. Cependant, les dispositifs d'apprentissage et d'enseignement interne sont loin d'être formalisés dans une structure scolaire. La transmission des savoirs se passe dans un rapport personnel entre maîtres et disciples. C'est pourquoi l'écrit reste un savoir d'élite, les autres acteurs subalternes étant exclus, bien qu'ils soient mentionnés dans les documents qui portent sur la vie quotidienne des chefferies. Or, quand il s'agit d'apprécier l'indigénisation de l'écriture, la réflexion de fond qui se pose est celle de savoir si on peut distinguer l'émergence d'une raison graphique, c'est-à-dire le postulat de Jacques Goudy, qu'on évoquait tout à l'heure implicitement, qui voudrait que l'écriture aurait comme effet inéluctable le développement d'un certain nombre de capacités cognitives, dont la capacité d'abstraction. L'analyse de l'histoire des Ndembo paraît en effet indiquer que l'écriture change la société où elle fait son apparition, mais elle indique également que la société change l'écriture. Deux exemples peuvent nous aider à confirmer ce double mouvement. Le premier a à voir avec le rôle ou la place qui occupe l'archive à l'intérieur de ces sociétés et surtout a à voir avec la manière dont l'archive, je vais essayer de résumer, dont l'archive se transforme en symbole de pouvoir de ces mêmes chefferies. Dans un document ou dans plusieurs documents, j'ai pu trouver la référence au mot trastsalio. Ce mot est un néologisme, il n'a aucune correspondance ni en portugais ni en kimbundo, mais en fait, il fait référence aux choses de l'État. Et dans les choses de l'État, on peut trouver une liste d'objets, de choses. Les calottes traditionnelles honorifiques, les bâtons, des cadeaux offerts par le roi du Congo, qui avaient un rapport avec la cérémonie du couronnement, les galons des uniformes militaires, des piles de papier, l'encre, les tampons, les sceaux, ainsi que plusieurs boîtes pour garder les lettres, en fait celles qui contenaient les archives. Or, il se trouve que dans un moment de conflit entre chefferies ou entre candidats à la position de chef, un des opposants a brûlé les archives d'État, justement comme geste qui signifie la destruction des insignes, d'une insigne d'État. Donc on dirait que il y a ici une contestation du Ndembo actuel par l'honoraire, le retraité, le précédent, qui passait par la destruction des symboles qui assurait la légitimité du premier. D'où cette opération spectaculaire de brûler l'écriture pour effacer la mémoire de l'État. Donc l'archive de l'État à l'intérieur des sociétés Ndembo apparaît dans une double dimension, comme instrument de pouvoir qui est transfiguré en symbole de pouvoir et par ce biais devient un lien privilégié d'expression des tensions sociales et politiques, et en même temps comme une insigne de pouvoir dans sa matérialité, de telle façon que très fréquemment les cires rouges étaient apposées au bâton. D'ailleurs, on peut encore observer un certain nombre de ces bateaux avec les cires rouges à la Société de géographie de Lisbonne. Bon, l'autre exemple qui a à voir avec cette encapsulation de l'écriture, que je vais résumer rapidement, concerne la question de la mise par écrit de savoir qui circulait d'habitude oralement. Et quelles sont les transformations que ces mêmes savoirs transmis oralement subissent au moment où ils sont mis par écrit. J'avais pensé à parler sur le discours historique, le discours historique, c'est-à-dire sur les récits qui racontent l'histoire des Ndembo et qui étaient transmises oralement. ce qui, évidemment, fait penser à toute la discussion sur le rapport entre l'histoire et le genre qu'il apporte, que Saint-Jacques a étudié, et que Ian Vincina et Joseph Miller, dans leurs études sur la tradition orale africaine, ont aussi évoqué pour parler ou pour dire qu'il existe des historiens de l'oralité. Or, il se trouve que les Ndembe s'inscrivent dans une tradition orale qui choisit le roi du Congo comme roi fondateur. Donc, le mythe fondateur est associé au roi du Congo, même si dans les traditions qui ont été recueillies par quelques sources du XVIIe siècle portugais, l'héros fondateur soit le roi forgeron. Donc il y a là un remplacement d'héros fondateur, mais je pense que je n'ai pas vraiment le temps de développer cette longue question. Donc je suis désolée, on reste à l'entrée du deuxième régime de circulation. Bon.
Peut-être développer ça un peu dans la discussion. Merci.